Lors de la 32e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, la réalisatrice Virginie Linhart a présenté un film documentaire dans la catégorie Terre d'Histoire INA FIGRA. Un documentaire qui se concentre sur un groupe d'extrême gauche qui, entre 1979 et 1987, organisait des braquages, des attentats à la bombe et des assassinats. Leur nom de guerre, Action Directe. Plus de 80 attentats, 26 blessés et 12 morts en moins de 10 ans. Jade, Julien et Théo, étudiants à l'Université d'Artois, ont rencontré Virginie Linhart après la projection du documentaire Action Directe au FIGRA. On écoute leur interview.
Le travail d'enquête n'a pas été compliqué parce qu'il y a beaucoup quand même de documents. D'abord, Action Directe, Rouillant, il a écrit énormément de livres. Il y a notamment un livre sur tout Action Directe avec une chronologie très très précise, etc. Après, c'était comme on a essayé de le montrer, c'était quand même à un moment des attentats tout le temps. Donc il y avait beaucoup beaucoup de presse, de radio. Et puis Vanessa Schneider, avec qui j'ai réalisé ce film, elle avait écrit un roman mais inspiré de l'histoire de Joël Aubron. Et donc elle-même avait beaucoup de documentation. Donc le travail d'enquête, il n'était pas compliqué. Ce qui était compliqué, c'est que l'histoire est évidemment comme toujours beaucoup plus compliquée. Il y a plein de moments, par exemple, voilà, à Deauville, à un moment, ils essayent de faire un traquenard et tout. Enfin, il y a plein de moments comme ça. Et il fallait beaucoup simplifier. Au départ, on avait écrit pour une série 3 fois 52 minutes, puis c'est devenu 1,70. Donc voilà, là, il faut apprendre à sabrer.
Dans le documentaire, on voit qu'il y a énormément de témoins et de gens qui ont eu un lien direct avec cette affaire, notamment des avocats d'Action Directe. Comment est-ce que vous avez réussi à avoir tous ces contacts ?
Alors, en fait, Vanessa, comme elle avait fait ce travail préalable sur Joëlle Aubron, la fille de Deauville, elle avait beaucoup de contacts avec les policiers. Et puis, moi, j'en avais identifié d'autres en lisant, par exemple, Mancini, Ange Mancini, celui du Raid. Bon, bah, moi, j'étais obsédée par l'idée d'avoir Ange Mancini. C'était vraiment hyper important. Et puis, il y en a un autre que je voulais vraiment avoir, c'est Joe Kerry, celui qui est un peu un flic à la Lino Ventura, comme ça. Parce que j'avais vu qu'ils avaient eu un rôle crucial à des moments donnés. Donc après, bah, voilà, on recherche un peu partout. C'est en général pas trop difficile de les convaincre, sauf quand ils sont très embêtants.
Pourquoi ce choix de sujet Est-ce que vous avez un lien par ce sujet ?
Moi, je suis la fille de Robert Linhart, qui est un des fondateurs de la gauche prolétarienne. Et la gauche prolétarienne, en 1973, elle s'est dissoute sur la question de la lutte armée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les chefs de la gauche prolétarienne, qui sont souvent dont les parents ont échappé à la Shoah, se rendent compte que la base de la gauche prolétarienne fait l'attentat de Munich et le fait que 11 athlètes israéliens aient été assassinés, ils décident que ça devient dangereux, qu'il faut dissoudre la gauche prolétarienne et dissoudre cette organisation. Et ça a été très mal pris. Et des militants sont donc allés ensuite fonder différentes organisations, dont AD, mais pas seulement. Il y a eu plein d'organisations qui n'ont pas supporté à ce moment-là de déposer les armes, comme ils disaient.
Selon vous, pourquoi est-ce que Action Directe a disparu de l'image collective ?
Alors moi, j'ai pas l'impression vraiment que... Alors peut-être vous êtes vraiment très jeune, mais j'ai pas l'impression... Par exemple, moi, mes filles, elles ont 25 ans, 22 ans, et Action Directe, ça reste une sorte de mythologie révolutionnaire comme ça, qui, en fait, personne ne saurait dire qui a fait quoi, d'où ils viennent. Mais il y a cette mythologie de la révolution, de tout ça, qui est quand même assez présent. Et c'est vrai que j'ai eu aussi envie de raconter de manière très précise pourquoi aujourd'hui on ne pouvait pas juste mythifier Action Directe.
Moi j'avais une question sur ça, du coup en parlant de ce romantisme révolutionnaire aujourd'hui. Du coup, vous l'avez mentionné à travers vos filles. On peut parler d'une résonance avec l'affaire Brian Thompson. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, l'assassinat du président de United Healthcare. Pareil, les questions d'éco-terrorisme qui font beaucoup écho dans la jeunesse. Mais est-ce qu'on pourrait parler aujourd'hui d'une renaissance, d'un romantisme révolutionnaire, d'une radiculation des jeunes, à l'image par exemple de mai 68 ou de ce qui s'est passé après?
Oui, c'est une question intéressante. Oui, je pense qu'indubitablement, il y a un romantisme révolutionnaire qui émerge dans la jeunesse et qui est aussi lié au désespoir de l'offre politique actuelle. C'est-à-dire que la nature a horreur du vide et effectivement, c'est tellement compliqué le paysage politique actuel et puis il est extrêmement vieux, etc. Évidemment que, et c'est bien, que la jeunesse cherche des modèles révolutionnaires. Mais moi, je serais pour qu'elle invente ses propres modèles plutôt que de rechercher des vieux modèles. Parce que bon, maintenant, excusez-moi, mais rouillant, il y a en gros l'âge de mon père, quoi. Donc voilà, c'est des vieux modèles, c'est des modèles issus de 68. Vous pouvez peut-être inventer, maintenant on est au 21e siècle, inventer autre chose. Et surtout, bon, moi, ce qui me paraît important, c'est que oser lutter, oser vaincre, comme disait un slogan de 68, mais pas tuer. Moi, je pense qu'on ne prend pas la vie humaine, voilà. Même au pire des salauds, au pire des exploiteurs, on ne tue pas.
Vous condamnez ce militantisme extrême, du coup, ayant baigné dedans militantisme...
Non, je ne condamne pas. Je ne condamne pas du tout le militantisme extrême. Je condamne l'acte de tuer gratuitement.
Le militantisme assassin.
Oui, je pense que c'est pas du militantisme, en fait. L'assassinat n'est pas du militantisme pour moi. Et vraiment, je condamne l'assassinat. Alors, ça s'appelle de l'assassinat politique, peut-être, mais je vois pas en quoi, en vertu de quoi, on s'arrogerait le droit de tuer pour de la politique. Et c'est vrai que, par exemple, Henri Leclerc, et c'est pour ça que j'ai mis cet entretien qui m'est très cher, il dit... Moi, je peux tout défendre, je peux défendre le pire des criminels, mais je ne peux pas défendre l'homme ou la femme qui proclame « j'ai tué parce que c'est juste de tuer politiquement ». Ça, non.
Il défend la cause, pas le... Je ne sais plus exactement la citation, mais j'ai envie de la retrouver parce qu'elle était très...
C'est exactement ça. Il dit « on ne peut pas dire « j'ai tué et c'est normal de tuer parce que politiquement, je suis en opposition ».
Et du coup, ayant baigné là-dedans, votre père étant du coup un des fondateurs de la gauche radicale, c'est une question un peu compliquée, mais est-ce que vous auriez une forme de militantisme qui serait plus efficace aujourd'hui que, par exemple, pour la Palestine, il y a eu toutes ces choses de boycott, la manifestation. Est-ce que ça reste important ou est-ce que, du coup, à l'image des politiques... des politiques un peu vides qui déçoivent la jeunesse, etc. Ça a poussé indubitablement à de nouvelles formes de... peut-être du coup à une certaine forme de violence.
Je ne sais pas si c'est une réponse exacte à votre question, parce qu'elle est un peu embrouillée, donc vous vous débrouillerez avec cette question. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que oui, je suis née dans un milieu de parents révolutionnaires, mais la vie humaine était sacrée, puisque c'est bien au nom de la vie humaine que mon père, avec d'autres, décide de la dissolution de l'organisation dont il est l'un des dirigeants. Et ce que je peux vous dire également, c'est que moi, je n'ai jamais milité à proprement parler, à part aujourd'hui sur la question des femmes réalisatrices, que j'essaye de défendre, parce qu'elles sont encore très invisibilisées. Mais j'ai toujours pensé que faire ce type de film était d'une certaine manière une sorte de militantisme. Et voilà, c'est ce que je fais.
J'ai une question qui a été posée du coup pendant la conversation, mais on n'a pas eu le temps de l'enregistrer. Pourquoi du coup ne pas avoir interrogé les membres du noyau dur? On a vu qu'il y en a certains qui étaient encore vivants aujourd'hui. Pourquoi ils ne figurent pas dans le film en tant qu'intervenants?
Parce que, en tout cas, le fondateur Jean-Marc Rouillant, les autres ne veulent pas parler, hein, parce qu'il y a quand même eu meurtre, etc. Maintenant, ils se sont réinsérés dans la société, ils ont des enfants, des petits-enfants, ils vont à l'école chercher leurs petits-enfants, etc. Donc, vous imaginez bien qu'ils n'ont pas vraiment envie de raconter tout ça. Et le seul qui ne change pas idéologiquement et qui défend toujours cette voie, c'est Jean-Marc Rouillant. Et c'est vrai que moi, j'avais aucune intention de lui donner la parole, parce que dans ce film-là, ça n'aurait pas de sens, puisqu'on essaie d'objectiver l'histoire, on essaye de la rendre la plus claire possible, la plus cohérente. Et donc, avoir un discours politique sans recul et sans critique, ça ne me semblait pas pertinent. Et puis, on avait les avocats, et les avocats pouvaient expliquer à travers ce qu'ils défendaient, un peu ce que plaidaient, ce que voulaient Rouillant et Adé. Et je trouvais ça plus intéressant, parce que ça fait quand même un prisme différent.
Alors j'avais une dernière question sur l'impact du documentaire. Le documentaire a eu un impact sur vous, mais même si vous avez une certaine proximité avec cette histoire, y a-t-il des éléments qui vous ont surpris ou que vous ne connaissiez pas avant la mise en place de ce documentaire ?
Qu'est-ce que je connaissais pas vraiment ? J'ai été surprise du fait que, mais je le regarde avec mes lunettes d'aujourd'hui et je regarde, voilà, c'est les années 80. J'étais surprise du fait que ce sont les femmes qu'on envoie tuer et que les hommes couvrent, mais ne tuent pas, c'est-à-dire ne font pas le sale boulot. Et ça, je dois dire, c'est très très rare dans toute l'histoire des meurtres. C'est-à-dire que même, je crois, les nazis n'envoyaient pas les femmes liquider leurs adversaires. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogée sur la place des hommes et des femmes et la domination de ces révolutionnaires qui prenaient la révolution, mais à la maison se faisaient faire la cuisine, servir, et envoyaient en plus, avaient souvent deux maîtresses à la fois, et en plus envoyaient les filles buter les cibles.
C'était un entretien avec Virginie Linhart, réalisatrice du documentaire Action Directe, un film documentaire qui était en lice dans la catégorie Terre d'Histoire INA FIGRA lors de la 32e édition du Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société qui s'est déroulé du 1er au 5 avril dernier à Douai. Interview réalisée par Jade, Théo et Julien, étudiants à l'Université d'Artois, à Arras.